Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 8 novembre 2024, ici Alex Bergeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'après-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Et là là! Par quoi... C'est comme je disais avant de commencer l'émission, il s'est dit tellement d'affaires cette semaine. Que ça pourrait être un spécial d'une heure sur les élections américaines, mais c'est pas non plus le sujet le plus jojo non plus en ce moment. Fait que on va faire l'effort de ne pas faire 100% d'élections américaines. Parce que tout a été dit, autant de notre bord de la frontière que de l'autre côté, pour tenter de peut-être un peu expliquer le pourquoi du comment Kamala a pas gagné. Et bien formulé comme ça, pourquoi Kamala n'a pas gagné? C'est peut-être le plus important parce que, et ça c'est de l'avis de plusieurs, les démocrates sont pas super bons pour faire de l'introspection. Il faut trouver une raison pourquoi ils n'ont pas gagné, non pas pourquoi ça n'a pas passé. Une des pistes de solution, entre autres dans le message, et l'espèce de pouvoir qu'a Donald Trump de faire gober ce qu'il veut à tout le monde. On demande aux gens pour qui vous allez voter. Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il va redresser l'économie. Parce que c'est un homme d'affaires. Parce qu'il connaît ça, l'argent. Parce qu'il dit... qu'on va avoir des épiceries pas chères grâce à lui et que tout est de la faute de Joe Biden et de Kamala Harris. Pourquoi ce message-là en particulier percute? On le sait pas. Mais ça a marché. Un peu avant 2h du matin ou autour de 2h du matin, c'était pas mal joué. Parce que l'état clé de la soirée électorale, qui était la Pennsylvanie, venait de tomber entre les mains de Donald Trump. Et il y avait sept états clés où on pensait qu'il allait avoir des résultats serrés. Les soirées électorales ont à peu près toutes commencé en disant qu'il faudrait attendre la semaine prochaine. Tellement ça allait être serré avant d'avoir les premiers résultats. Puis non. Ça a repris 6 heures. Puis on était déjà certains, on donnait la Pennsylvanie à Donald Trump. Évidemment, on faisait attention, on a attendu avant de déclarer la Pennsylvanie rouge. Fox News, sans surprise, était les premiers à le dire. Mais quand même pas si longtemps que ça après, CNN et les autres le disaient aussi. La preuve, au moment d'enregistrer le vendredi avant midi, Donald Trump est à 295 grands électeurs, Kamala est à 226 et il reste encore des votes à dépouiller. Entre autres, l'Arizona et le Nevada qui se font attendre comme d'habitude. Mais on pensait à des luttes beaucoup plus serrées, justement au Nevada, en Arizona, là j'y vais de mémoire, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie. Ça a tout viré rouge. Sans aucune exception. Donc c'est une victoire décisive. Et une victoire tellement décisive que, si je me trompe pas, ça faisait 20 ans qu'un candidat républicain remportait et l'élection et le vote populaire. Parce qu'à son premier mandat, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, contre Hillary Clinton, il avait obtenu 3 millions de votes de moins que Hillary Clinton, mais il avait remporté les bons États pour terminer à 304. Et là, si je fais un calcul rapide, l'Arizona qui en donne 11, on arrive à ça, 304. Et le Nevada, qui pourrait lui aussi passer aux mains de Donald Trump, ce qui lui donnerait à ce moment-là 6 de plus. Donc, il aurait remporté son pari avec 6 grands électeurs de plus pour lui donner cette victoire qui, de toute façon, on le sait déjà, mais en plus avec le vote de son côté. Et ça, c'est la donnée que à peu près personne avait été capable de prévoir, qu'il allait remporter le pourcentage, qu'il allait remporter les suffrages, je devrais plutôt dire. Parce qu'on disait que ça allait être serré. On disait que ça allait se terminer avec un seul État de différence, la Pennsylvanie en l'occurrence, pour départager qui, entre Kamala et Donald Trump, allait devenir le prochain président. Et ça ne s'est pas concrétisé. Des gains qui avaient été faits en 2020 pour justement faire partir Donald Trump ne se retrouvent plus rendus en 2024. Et ça, c'est le grand mystère, ou en tout cas le grand mystère. C'est ce qu'on tend, c'est ce qu'on va tenter d'expliquer en disant que cette majorité-là silencieuse qui ne se prononce pas, qu'on ne connaît pas, ou qu'on a de la misère à identifier, ne serait-ce que ça, cette population-là est sortie voter en 2024. Mais après ça, comme c'était supposé être serré, qu'est-ce qui s'est passé du côté bleu? Est-ce qu'on a justement boudé l'élection? Est-ce que parce que, en signe de protestation, d'avoir, entre guillemets, mis Kamala Harris à la place de Joe Biden sans consultation, quoi qu'ils avaient le pouvoir de le faire avec ou sans, est-ce que ça peut avoir influencé? Il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui voulaient voter pour Joe Biden malgré tout. Et que Kamala Harris, comme elle n'avait pas non plus les faits d'armes extraordinaires, mais de toute façon, elle est vice-présidente. Donc, les vice-présidents n'ont pas le devoir d'avoir un mandat extraordinaire et d'y aller de réalisations surprenantes et complètement folles. Donc, c'est normal que Kamala Harris n'arrive pas devant les électeurs en disant « Bonjour, voici tout ce que j'ai fait depuis 4 ans. » Ce n'est pas son mandat de réaliser des choses, et c'est plutôt un mandat de les approuver, comme elle est dans la comme elle est avec les autres représentants. Entériner, par exemple, une élection comme on l'a eu comme on a eu à l'insurrection. Donc, tout ça pour dire, même si on redonnait... Non, c'est pas vrai. Il y a un État où réellement le pourcentage de vote du Parti vert aurait pu avantager Kamala Harris, mais encore là, à 226 contre 295, ça ne serait même pas suffisant pour vraiment faire une vraie différence. Donc, c'était littéralement une course à deux. Il n'y avait pas d'autres candidats du tout, ne serait-ce que même si Robert F. Kennedy était encore, de Junior, était encore sur les bulletins de vote et qu'il a obtenu quand même 0,5% des voix. Il a quand même obtenu 638 000 voix avec 0,4% des votes. Et comble de du point d'interrogation le plus ultime, Donald Trump voudrait peut-être le faire nommer responsable de la santé. Et son mandat en tant que responsable de la santé, c'est de démanteler le réseau de la santé aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est des suppositions, évidemment. On le sait pas. Est-ce que réellement Donald Trump va suivre le projet 2025? Il a beau dire que ce n'est pas dans ses plans. Il a beau dire que ce ne sera pas quelque chose qu'il va regarder. Toutes ses premières décisions qu'il va faire, à part s'excuser de tous ses procès le 20 janvier, ça va être, ça dit très bien ça, ça va être super, super, super surveillé. Parce que justement, et lui-même n'aura pas le choix, parce que justement, il ne voudra pas donner raison à son adversaire. Parce que l'épouvantail qu'on a tenté de sortir et que malheureusement, ça n'a pas été convaincant, c'est le projet 2025. Le projet 2025, c'est des anciens personnages de l'entourage de Donald Trump, notamment, qui sont vraiment dans l'extrême droite, qui sont vraiment très, très, très à droite, qui veulent réformer les États-Unis ou plutôt faire revenir les États-Unis dans des années passées où, justement, le droit des femmes est mis en danger, l'environnement, c'est pas important, les systèmes de santé, ça sert à rien, l'éducation, faut bannir des livres, faut réformer tout ça parce qu'il y a trop de « woke » dans les bibliothèques, peu importe ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, le terme est galvaudé complètement. Fait est-ce que réellement ce projet-là, l'avortement à l'entièreté du pays, a empêché les avortements dans l'entièreté du pays? Fait que, tu sais, est-ce que réellement ce truc-là, malgré que ça soit fait par d'anciens proches de Donald Trump, va exister, va se pouvoir? La question est lancée. Et c'est justement à cause de ça que, oui, il y avait une méfiance, mais cette méfiance-là n'a pas percolé. Parce que justement, les gens ont accroché davantage au bout où il dit que « Oui, oui, vous allez avoir des retours d'impôts, on va vous redonner de l'argent et l'épicerie va miraculeusement coûter moins cher. » Oui, mais la première chose que lui-même dit, c'est que dans l'économie, il faut être protectionniste, il faut arrêter d'importer et d'exporter en fou avec le Canada, avec les autres pays. Donc, des augmentations à coup sûr de choses qui... Parce qu'en ce moment, ça va bien. Il y a le traité de l'Amérique du Nord, mais que de toute façon, Donald Trump haït pour mourir. Fait que c'est pas impossible. Et ce qui arrive aussi, c'est que, le Sénat, il y avait, c'était à 50-50 littéralement. Il y avait 50 bleus, 50 rouges. Les rouges ont réussi à faire des percées dans des États bleus. Ils sont maintenant 53 au Sénat. Donc, ça veut dire que si la Chambre des représentants continue sur sa lancée et devient rouge, elle aussi, de manière majoritaire, ça fait en sorte que le Sénat est aussi majoritaire. Donald Trump peut passer tous les textes de loi qu'il veut parce qu'il y a les deux chambres qui sont censées être le reflet l'une de l'autre. Donc, en plus d'être majoritaire avec 50 %, bon là, c'est sûr que plus qu'on avance, plus que le pourcentage descend, mais... Au terme de la soirée électorale, il était à 51, presque 52 % des votes. Et ça lui donne cette légitimité-là pendant au minimum 2 ans de pouvoir faire ce qu'il veut. Parce que le dernier rempart, entre guillemets, ça va être les midterms dans 2 ans, où justement l'autre balance de représentants au Sénat ou de représentants à la Chambre qui n'étaient pas en élection, ou en tout cas, il y en a un petit peu tout le temps, mais le plus gros de la deuxième balance se fait au midterm. Et c'est là qu'il y aura un deuxième test. Est-ce qu'après 2 ans de Donald Trump à temps plein, on va lui reconfier 100 % des pouvoirs? Ou justement, est-ce que ça va être trop... Et c'est peut-être là qu'il pourrait avoir un côté stratégique de faire des réformes correctes, drastiques, mais pas trop dans les 2 premières années pour garder la confiance, pour qu'après ça, dans le dernier deuxième, là, on y aille avec les trucs encore plus restrictifs. Il y a une nomination de juge qui s'en vient aussi. Déjà que de toute façon, ils sont 6-3. 6-3 rouges, ils pourraient devenir 7-2 rouges. En fait, non, ils vont devenir 7-2 rouges parce que c'est Donald qui décide. Fait que, c'est tout ça. Oui, on en parle beaucoup au Canada parce que c'est notre pays, puis on est voisins, puis nanana. Oui, c'est sûr. Mais après ça, ça se répercute dans notre actualité à nous autres. Parce qu'après ça, on dit, ah, oh, ben là, la frontière Roxham, ben là, si c'était une passoire, regardez quand tout le monde va vouloir s'enfuir des États-Unis, est-ce que réellement ils vont tous vouloir s'enfuir des États-Unis? Ça aussi, c'est une autre question. Fait que, évidemment, c'est à la mode en ce moment de varger sur l'immigration au Canada parce que ça fait gagner des points quand on est dans l'opposition. Mais après ça, est-ce que réellement on est à la veille d'avoir cette immigration massive-là des immigrants peut-être illégaux qui n'ont pas tous leurs papiers, qui vont vouloir s'en aller au Canada parce que, mon Dieu, on est donc bons, donc fins? Ça ne veut pas dire. Ce ne sont que des suppositions. Puis encore une fois, est-ce que ça se fera tout de suite lorsqu'il entrera au pouvoir ou s'il va y avoir un certain temps? La question se pose. Donc voilà, on va essayer de maintenir ça à ce bout-là pour les élections américaines. On va parler de d'autres choses parce que oui, il s'est passé d'autres choses dans l'actualité, même si on a tendance à l'avoir oublié un tout petit peu. Mais quand même. C'est un exercice qu'on fait en cette première fin de semaine de novembre, deuxième fin de semaine de novembre. Ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Du côté de CFAQ, on est en plein Téléthon. Téléthon, je savais que j'allais dire Téléthon. On est en plein Radioton au profit de Moisson Westrie. Donc, sur la page Facebook de la semaine de la radio, il y a des liens pour pouvoir donner en argent pour Moisson Estrie. Sinon, on est en direct du pavillon E1 jusqu'à 16h. Donc, on peut récolter dons en argent, dons par carte. Et on a même des petites marchandises à offrir à tous. Donc, venez nous voir. On est là au moins toute l'après-midi. Sinon, on sera au Refuge des Brasseurs par la suite. Mais voilà, donc c'est au profit de Moisson Estrie, donc pour aider justement ceux qui en ont le plus besoin. Courte pause. Au retour, on poursuit ce deuxième service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Tiré du nouvel album de Bon Enfant, Air de Plastique, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3, dis-je. Très bien. Voilà, donc pour les gens de Québec, en fait, on est en plein radioton en ce moment. Donc, 24 heures de radio et j'étais de l'équipe de nuit. Donc, ce qui peut expliquer peut-être un petit bégaiement à l'occasion, on comprendra à ce moment-là. Mais on est là pour parler d'actualité davantage. Donc, cette semaine, du côté québécois, en fait, quand on parle d'éclipse médiatique, ça, c'est un terme qui est super le fun, c'est quand il y a des nouvelles beaucoup plus grosses qui arrivent soit ailleurs dans le monde ou ailleurs au pays et que n'importe quoi qu'on va faire au courant de la semaine va un peu beaucoup passer deuxième. Donc, c'est le moment idéal si on a des trucs un peu plates à faire la promotion ou en tout cas que ça sorte. On en profite lors de ces éclipses médiatiques-là. C'est peut-être pourquoi, ou en tout cas, ça devait être à l'horaire, que le rapport de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale va bien sûr encore dire à la CAQ que l'un de ses députés a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Cette fois-ci, c'est Sylvain Lévesque, dans la circonscription de Chauveau, du côté de Québec, qui a dû démissionner de son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale mercredi dernier, après avoir trompé la commissaire Ariane Minglot et qui avait tenté d'entraver son travail selon les conclusions de l'enquête. On se souviendra dans de précédents épisodes qu'il y avait eu une espèce de petite guerre entre 4-5 députés parce qu'ils voulaient tous être le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ça donne un supplément de 20 000 piastres sur le salaire, je ne sais plus. Mais, tu sais, pour des pacotiers, ça avait fait en sorte que la députée libérale avait dû se retirer temporairement du caucus. Je pense qu'elle n'est même pas retournée en plus. Elle était encore indépendante. Bref, ça avait pris des proportions qui n'avaient aucun sens. Et finalement, c'était Sylvain Lévesque de la circonscription de Chauveau, comme je le disais, qui, surprenamment également, était l'adversaire d'Éric Duhaime. Donc, cette nouvelle-là, évidemment, a régalé les yeux d'Éric Duhaime là-dessus, puisque le rapport qui a été déposé mercredi matin recommandait à l'Assemblée nationale de formuler une réprimande, une décision qui devait être prise jeudi, alors que Éric Duhaime, lui, demandait sa démission dans le salon de qu'on a le droit de louer pour poser des questions. En tout cas, il était bien fâché. Qui plus est, la commissaire Ariane Minglot révélait que la CAQ consignerait des données sur ses citoyens qui s'adressent au bureau de circonscription dans une liste qui détermine le niveau de sympathie de l'électeur. Donc, à un certain certain degré, peut-être, ce qu'on leur demande, pour qui ils ont voté à la dernière élection. Et s'ils répondent la bonne réponse d'avoir voté pour la CAQ, leur dossier est un petit peu plus haut sur la pile que pourraient l'être certains qui ont voté pour l'opposition, par exemple. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'a déjà vu, mais les circonscriptions de la CAQ ont des petits bonus que les circonscriptions qui ne sont pas représentées par des députés de la CAQ. À une autre époque, on disait « votez pour nous et on va vous donner un frigidaire », bien, la CAQ continue un peu là-dedans. En campagne électorale, on promettait la rénovation d'une école dans la circonscription de Sherbrooke. Surprise, ce projet-là est retourné à l'étude. À la place, la maison des aînés a été construite dans Saint-François. Ça reste Sherbrooke, mais c'est Fleurimont. Donc, des petites affaires comme ça pour être très locales dans la région de Sherbrooke. Parce que Québec, bien, à part Québec même, sont quand même chanceux. Ça se trouve à être des représentants de la CAQ à la grandeur de la capitale nationale. Troisième lien. Bon, le seul fait d'avoir accès à ces informations peut donner l'apparence d'une influence partisane sur le traitement d'un dossier, a déploré la commissaire dans son rapport, bien sûr. L'enquête demandée en janvier dernier par Québec solidaire portait sur des révélations de Radio-Canada selon lesquelles une employée de bureau de la circonscription de Chauveau avait proposé à une citoyenne qui voulait faire cheminer son dossier de payer le fameux billet pour un cocktail de financement de la CAQ pour rencontrer, comme par hasard ou au détour d'un corridor, le ministre des Finances. Où il y a eu entrave et où justement M. Lévesque s'est fait pogner. La commissaire insiste sur le fait que rien ne peut justifier une invitation à participer à une activité partisane. Bien sûr, ça c'était sorti dans les médias que... Ça, évidemment, ça n'a pas de bon sens. Il y avait même eu un couple qui voulait parler de sécurité routière qui avait été demandé à payer un cocktail dînatoire pour rencontrer Geneviève Guilbeault, alors ministre des Transports, et vice-première ministre accessoirement. Donc, quand évidemment c'est sorti, la CAQ a dit avoir remboursé le couple, mais bon, on n'a pas le reçu non plus. Selon la commissaire, bien que la preuve recueillie révèle une utilisation suffisamment significative de ressources de l'État par l'attaché politique du député, soit la masse salariale du personnel de bureau et de circonscription à des fins qui ne sont pas liées à l'exercice de charges, elle démontre que le député n'a pas permis cette utilisation. On parle d'un dossier... voilà, donc, pour contribution financière présentée comme une occasion de discuter d'un dossier avec un député. Par conséquent, un ministre. La commissaire conclut que Lévesque a trompé ou tenté de tromper et entravé la commissaire dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il avait fait délite sur le courriel en question. Parce que cette recommandation-là que l'employé de Chauveau avait fait pour être gentil, disait-on, juste... Ah, ben là, si tu veux voir tel gars, va à son souper qui va être organisé telle date. Ben, ce courriel-là, étonnamment, n'était plus dans la boîte de courriel lorsqu'il est venu le temps d'enquêter. On a réussi à identifier que, justement, c'était Sylvain Lévesque qui avait fait la suppression parce que pensez qu'en 2020, 2021, 2022, 2023, supprimer un courriel faisait en sorte qu'il était complètement supprimé de la vie. C'est bien mal connaître la technologie. Janvier 2023, dans ce cas-ci, le député avait assuré qu'elle l'avait... en janvier 2023, une citoyenne a adressé la requête au député pour demander des changements au ministre des Finances. Le député a assuré que la requête avait été acheminée au ministre rendu en avril 2023. La transmission de documents aurait été faite avec l'adresse de courriel personnelle de la citoyenne en février, mais évidemment, ben, la transmission ne s'est pas faite comme du monde. Il a laissé entendre qu'il a agi dans la panique pour se protéger et éviter l'engouement médiatique, rapporte la commissaire, ce pourquoi il avait délité le courriel. Parce que, bien sûr, dans la panique, vaut mieux tenter de faire disparaître les preuves. Donc, voilà. Est-ce que ça va faire en sorte que Sylvain Lévesque va se faire mettre à la porte de la CAQ? Probablement pas. Ça reste somme toute anecdotique et on va s'excuser et dire pardon mon oncle, ça va être correct, ou on va le mettre peut-être en pénitence un petit peu. Là, présentement, il y a un poste de troisième vice-présidence qui est à pourvoir. Règle générale, c'est quand justement toutes les têtes d'affiche ne sont pas dans l'Assemblée nationale et on doit faire des petits votes quand même. Donc, on est rendu à la troisième vice-présidence dans ce cas-ci pour remplacer Nathalie Roy sur le trône au milieu de maintenant le Salon Rouge. Voilà pour ça. Essentiellement, ben, c'est encore un caquiste qui fait n'importe quoi. Ça ne sera pas super surprenant non plus. Mais dans le cas de Sylvain Lévesque, c'est vraiment pas son premier rodéo. Je pense que c'est sa troisième élection, sa troisième réélection dans ce cas-ci. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant, disons ça comme ça. Mais voilà. La technologie n'est pas... Même encore là, un document caviardé, il y a moyen de le décaviarder. Fait que déliter un courriel, ne faites pas ça. Surtout si on vous enquête, ça ne serait pas des bons signes à envoyer, mettons. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et chez 94.3 à Québec. De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Soyons controversés encore ce matin. Il y a eu une entrevue qui a été donnée du côté de Radio-Canada où on recevait le... un peu questionné depuis quelque temps, du moins au Québec, Gad Elmaleh, qui continue de nier avoir plagié les humoristes québécois malgré les nombreuses vidéos de copy comics qui ont été mises en ligne avec justement la comparaison mot à mot, la comparaison des idées, des styles de numéros entre Gad et les humoristes québécois. Dans cette liste-là, on retrouvait Louis-José Houd, on retrouvait Martin Matt, Martin Petit. Donc, il y en avait une couple. Et les ressemblances étaient quand même assez marquées. Donc, c'était pas... Ça serait dur de dire que c'était vraiment dû au hasard. Voilà, donc il était au micro de Stéphane Leclerc pour les grands entretiens à Radio-Canada. C'est un peu drôle. Puisqu'il était justement en spectacle du côté du Centre Bell. C'est tout ça en fin de semaine ou bientôt. Au Québec, l'humour, c'est sacré. Et évidemment, la copie, l'inspiration, les gags qui peuvent se rapprocher, évidemment, on le veut le moins possible. Règle générale, si deux humoristes arrivent avec une même idée, avec un gag similaire, s'ils arrivent avec quelque chose de semblable, on fait l'effort de peut-être vérifier qui a peut-être eu l'idée avant et tout ça. Dans le cas de Gad, à une certaine époque, il est allé dire que c'était des hommages. Il rendait hommage au travail des Américains. Il rendait hommage au travail des autres en reprenant le texte et en ne créditant pas ces personnes-là. Donc, l'hommage, on y repassera. Mais voilà. Donc, voilà, Martin Matt, Louis-José Houd, Martin Petit, comme je le disais. Et en France... Il avait commencé à dire que, bon, il y a eu de l'inspiration, il y a eu des trucs, mais que son contenu à lui était légitime, tu sais, qu'il n'y avait pas sciemment plagié ou copié nécessairement les humoristes américains et tout ça. Parce qu'à une autre époque, on le sait en musique, il y a des versions françaises de chansons. Bon, ben, d'une certaine manière, il y a eu un moment où certains humoristes français reprenait peut-être des trucs en anglais parce que de toute façon, il n'y avait pas moyen d'aller vérifier si réellement ça existait ailleurs ou si il y avait ou si ça tirait son origine de quelque chose d'autre. Sauf qu'aujourd'hui, rendu dans les années 2010-2020, c'est plus dur de faire passer du contenu pour soi quand justement des férus d'humour, quand des gens qui se passionnent pour la question font le tour. Et en ce moment, la mise en ligne de vidéos devient tellement facile, devient tellement accessible que c'est plus facile d'être capable de vérifier des numéros, de vérifier des parties de sketch, etc. Ça avait fait scandale avec Copy Comics puisque Gad Elmaleh voulait absolument poursuivre le gars anonyme pour diffamation et tout ça, mais tout ce qu'il faisait, c'était mettre l'extrait de Gad, souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou des fois 3 mois, en comparaison avec le contenu original. Ce n'est pas de la diffamation. On a mis côte à côte des trucs qui se ressemblent énormément. Comment on le justifie? Dans son cas, comment on le justifie? Bien, on nie en bloc. Donc voilà, il y avait eu un petit espoir de peut-être avoir une rédemption, d'avoir des excuses, que nenni. Tout le monde en parle, notamment Serge Postigo, qui est le metteur en scène de Gad Elmaleh en France, avait tenté de convaincre Mike Ward, qui était aussi sur le plateau, que Gad Elmaleh était une bonne personne et non pas le monstre qu'on voulait croire qu'il est de plagiat et tout ça, en disant « Tu devrais inviter Gad Elmaleh sur ton podcast ». Et évidemment, ben Mike, étant Mike, le Mike qu'il est, a dit ben, « Non, ça me tente pas ». En même temps, ben, c'est justement, il y a tellement eu ce beef-là, il y a tellement eu cette controverse-là de justement parler contre Gad Elmaleh au Québec. Parce qu'on peut, évidemment, on ne peut pas y enlever le charisme qu'il a sur scène et tout ça. Mais où la limite est franchise, c'est lorsque des numéros d'humour ou des passages de numéros d'humour ou des idées de numéros sont copiés, plagiés, imités ou un peu déformé, juste pour dire, tu sais, une copie sur un travail, quand même, que tu changes 3-4 mots, que tu rajoutes des adverbes, ça reste du plagiat de travail quand même. Donc, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Pour revenir à l'entrevue, Gad Elmaleh disait « L'histoire du plagiat des humoristes québécois a été inventée de toutes pièces. » Donc voilà, on utilise la carte de nier en bloc. « Je le défends haut et fort », explique-t-il, tout en affirmant avoir fait son mea culpa par rapport à genre Jerry Seinfeld. Seinfeld, c'est correct. Tu sais, oui, je me suis peut-être un petit peu inspiré des années 90. Mais les humoristes québécois, non, jamais. Jamais. En 2019, voilà où Copy Comics entre en jeu. Il n'est pas le seul. Il n'y a pas seulement Gad Elmaleh. Il y a des humoristes plus récents, autant que Gad, autant que Jamel Debbouze. Il y en a vraiment plusieurs qui y passent. Et c'est pas nécessairement du mot à mot. C'est vraiment important de le dire. Ça peut être des idées de sketch, des mimiques, des manières d'aller qu'il reprend, il garde pour lui et va le replacer directement dans son spectacle en ne mentionnant peut-être pas nécessairement non plus dans le crédit. J'imagine que si on lit le pamphlet, il n'y aura pas Louis-José Hout d'inscrit dans Idéateur ou dans les remerciements pour tel bout de son sketch en 2010. Fait que voilà où, justement, il y avait cette question-là. En 2019, suite à ces révélations de Copy Comics, il y avait eu une entrevue du côté de Tout le monde en parle, où, justement, Martin Petit était en entrevue parce que un numéro, en tout cas une grande partie d'un numéro de son spectacle de 2000, Grandeur Nature, avait été copié dans le spectacle de 2014 de Gad Elmaleh. Fait qu'en plus, ces numéros-là sont espacés. Comme je le disais, bon, il y a eu des exemples que c'était un truc qui passait à la télé en juin et Gad le faisait au Casino de Paris en août. Fait que tu sais, ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus proche dans le temps, mais dans ce cas-ci, ben là, on a un 14 ans d'écart. Fait que dans cette discussion-là, toujours du côté de Radio-Canada, avec Stéphane Leclerc, Gad Elmaleh précisait qu'il avait personnellement, semble-t-il, abordé la question de plagiat avec Martin Matt. Il aurait appelé Martin Matt pour en parler. Est-ce que tu as entendu parler de pourquoi les gens disent ça? Dans le cas de Martin, début 2000, dans son spectacle, il faisait une blague comme quoi on a l'air ridicule quand on marche avec des bottes de ski. Fait que, tu sais, on se promène avec des bottes de ski cassées et en marchant, ben, il fait le mouvement de pied droit et raide quand on marche dans la neige. Dans un spectacle de Gad Elmaleh, il va au ski. C'est le skieur. On n'aime pas le skieur, le blond. Et même le blond est capable de marcher naturellement avec des bottes de ski. Ah oui, tu sais, quand on a l'air tellement con quand on marche avec des bottes de ski. Oh, oh, oh! On retrouve l'idée des bottes de ski telles quelles. Mais à la base, lui, c'est un blond en ski. Michel Barrette, dans les années 90, faisait le Chris de Lifeguard, qui était, par conséquent, blond, qui était beaucoup plus beau que l'humoriste en question, et que lui, il était donc parfait, et lui, il a donc l'air con. Donc, dans le même numéro, on peut dire qu'il y avait comme deux parentés québécoises, mais après ça, est-ce que c'est réellement la même parenté? Évidemment, lui, ni en bloc, mais quand on fait la comparaison, on peut se rendre compte de ces similarités-là, et c'est ces similarités-là qui ne passent pas dans le public aguerri québécois. Parce que si on retourne en Europe, si on retourne dans la communauté française, bien eux, Gad Elmaleh a dit « je m'excuse, un mané peut-être », et c'était suffisant. Tandis que, évidemment, rendu au Québec, ben ça ne se fait pas. Ces reproches ne sont pas fondés. Je pense qu'il faut interroger l'interroger là-dessus. Je pense que ce n'est pas honnête d'avoir un copain qui, tout d'un coup, se laisse embarquer et va crier avec les loups et qui ne m'appelle pas. C'est bizarre, non? Parce que Gad Elmaleh reproche à Martin Matt de ne pas l'avoir rappelé lorsque Copy Comics avait commencé à prouver qu'il l'avait imité et de plutôt embarquer dans la folie québécoise de ne pas aimer Gad Elmaleh. Pauvre petit pit. Donc, voilà. L'entrevue est disponible. Oh, c'est sûr que c'est pas vendeur de dire que l'entrevue est disponible sur une autre chaîne, mais reste quand même que ce grand entretien-là, on aborde le plagiat, mais comme je le disais, Gad Elmaleh n'a peut-être en tout cas, ne semble pas avoir fait le cheminement qu'il dit avoir fait, puisqu'il continue à nier quelques 5 ans plus tard après les vidéos de Copy Comics, qui sont toujours en ligne d'ailleurs. Cette fameuse poursuite Bayon n'a pas fonctionné, donc les deux vidéos de 26 minutes de contenu empruntées, copiées, réimaginées, rendues hommage à de Gad Elmaleh sont disponibles sur la chaîne de Copy Comics. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion de l'émission cette semaine sur les ondes de CFA 80.3 et de Chiz 94.3. De retour au deuxième service, Zoo Baby, qu'on vient d'entendre en musique pour conclure l'émission Baby chaque fois. Chaque fois. Nouvelle un peu drôle pour terminer l'émission. À la demande d'on ne sait pas trop qui, un moment donné, est apparu des jeux sur Netflix. Saviez-vous qu'il y avait des jeux sur Netflix? Ben, ça s'en va à ne plus n'avoir de jeux. La plateforme afficherait pour le moment 24 titres interactifs, des contenus avec lesquels les gens peuvent interagir, mais seulement 4 de ces contenus-là devraient rester sur la plateforme après le 1er décembre. C'est autant des mini-jeux que des trucs que normalement on aurait, par exemple, dans l'arcade d'Apple, qu'on peut payer un montant par mois pour avoir accès à des versions spéciales de certains jeux, etc. Bon, ben Netflix ne le fera plus. Ils avaient un studio de développement de jeux vidéo. Si vous le saviez, ben félicitations, parce que c'est passé réellement dans le beurre. C'est le cas de le dire. En octobre dernier, on apprenait que ce studio-là, en tant que tel, le studio Netflix jeu, était pour fermer complètement. Il y avait une tentative de créer un Roller Coaster Tycoon version Netflix. Donc, les manèges, ou en tout cas, qu'il allait avoir des clins d'œil à des séries Netflix dans ce jeu-là. Il y aurait eu un jeu Battleship de Netflix également qui a existé à un certain moment, mais voilà, surprise, les gens ne jouent pas à ça. Donc, le service de vidéo en ligne, faut le dire, va décider de finalement rebrousser chemin et ne pas donner suite à ces jeux vidéo-là. Quoique, il y en a quelques-uns qui devraient quand même rester sur la plateforme en tant que telle, mais dans ce cas-ci, ben, ça va être complètement retiré. Et sinon, un jeu, peut-être, je pense qu'on en avait parlé à l'émission, ça se veut être l'alternative aux Sims avec des personnages très réalistes. Et comme ils sont très réalistes et que ce jeu-là ne peut pas manquer sa coche, parce que sinon, ben, même, de toute façon, même les Sims 5, ça avait un peu pris le bord aussi dans les cartons. Mais tu sais, ça se voulait être l'alternative des Sims. Les vidéos qui ont circulé étaient quand même impressionnantes dans le bout réaliste de ces personnages-là. Ça s'appelle Inzoi, qui était I-N-Z-O-I, qui, bon, se veut l'alternative aux Sims parce que dans les 4 dernières années, avec Sims 4, Electronic Arts a fait ce qu'il voulait en sortant des package de jeux à toutes les trois semaines à coût de minimum 10 $, 20 $, 40 $, 60 $. Quelqu'un qui voudrait acheter techniquement tout le contenu aujourd'hui devrait débourser quelque chose comme 2 000-3 000 $ pour tout avoir le contenu qui est sorti depuis 4 ans, pour avoir vraiment le jeu complet. Donc, ça n'a juste aucun sens. Tellement de choses sont sorties et quelques gratuités ici et là, mais surtout payant. Donc, les gens se sont énormément lassés, c'est le cas de le dire. Dans le cas de Enzoï, le jeu devait sortir cette année. Évidemment, on est rendu en novembre, donc ça ne se pourra pas. Ne serait-ce que, bon, voilà, on va vouloir l'améliorer, mais à quel point ce jeu-là va être demandant graphiquement, évidemment, la question va se poser. Mais tu sais, on va s'approcher plus d'une esthétique peut-être un peu plus comme GTA, là, tu sais, des personnages un peu plus réalistes. Mais dans ce cas-ci, ce sont des Sims. Donc, ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Mais là, dans les premières images qu'on avait, ben, il allait, par exemple, sur le bord de la mer. Il allait faire, tu sais, des activités, tout ça. Donc, ça se voulait réellement une compétition et peut-être, est-ce que c'est à cause de ça que les Sims 5 ne verront peut-être jamais le jour? Parce que justement, comment on fait pour repartir cette franchise-là qui a été énormément aimée au début 2000 avec la première franchise, dans les mi-2000 à 2010 avec les Sims 2, Sims 3 qui avait été énormément apprécié aussi, et le 4 qui a tout gâché la franchise et qui a, parce que justement, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Donc, ce serait sur le Discord de Enzoï qu'on a annoncé que finalement, ben, il allait avoir un report de l'accès anticipé. Donc, on pourrait peut-être prévoir davantage le printemps prochain. Ces derniers expliquent qu'en raison de tests qui ont été effectués par les joueurs, les studios Krafton ont pris la décision de repousser la sortie à l'an prochain. La bonne nouvelle, c'est que il y a une date. Il existe une date maintenant, plus que juste fin 2024. On ira au 28 mars 2025. La sortie devrait être sur PC, donc Steam, très probablement. Et les versions complètes devraient être prévues sur console plus tard. Pas de date pour l'instant. À quel point ce sera juste le jeu pour console avec un curseur qui est énorme dans l'écran? Comme dans les Sims, on sait jamais. Le seul avantage, voilà, qu'il y avait pour les Sims 4, c'était que c'était le même style de jeu qui était utilisé entre les consoles, comparativement à Sims 3, Sims 2, Sims 1, qu'on créait expressément des jeux pour les consoles, sans nécessairement que ce soit la même chose. En tout cas, on ajoutait des variantes pour les versions consoles qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans la version PC. Voilà pour ça. C'est comme ça que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce deuxième service. Je le rappelle, pour les gens de Sherbrooke, on est en plein télé-radioton pour Moisson Estrie. On récolte vos dons en argent. Ici même, en direct du pavillon de la vie étudiante 1 sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Tout comme c'est possible de le faire en allant via les liens de Moisson Estrie sur la page de la semaine de la radio sur Facebook, où on peut retrouver les liens un peu plus facilement. Ici, même sur le campus, on a même un peu de marchandises de CFAQ à vous offrir en contrepartie d'un petit don. L'entièreté des profits vont bien sûr à Moisson Estrie pour ceux qui en auront le plus besoin. Noël arrive quand même. Donc voilà pour ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFA 80.3 et de Chiz 94.3. À la semaine prochaine. Salut!